Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Avec rien moins que François Berléand et François-Xavier Demaison ensemble sur scène et dans ce studio. Ensemble sur scène pour la pièce Par le bout du nez. Hélène Manarino va nous dresser le portrait croisé des deux comédiens. Et puis, dans Les Indispensables, une série exceptionnelle, la saison 3 de Baron Noir avec Cadmerad. On va tout vous raconter, même si on vous en avait déjà parlé il y a quelques jours. Et puis, une biographie illustrée de Vivaldi. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture avec vous, journal qui débute par les confessions de l'écrivain Gabriel Mazneff au New York Times.
Oui, visé par une enquête pour viol sur mineur suite à la publication du livre de Vanessa Springora, il a choisi le journal américain pour donner des détails sur son état d'esprit. Un long entretien dans lequel il explique s'être réfugié aux États-Unis depuis que toute cette histoire a éclaté. Il affirme se sentir très très seul, il ne dort plus, n'écrit plus, il se dit très malheureux. Il a déclaré « J'ai l'impression d'être un mort vivant, un mort marchant, marchant le long du front de mer. » Je rappelle que le procureur de Paris a lancé un appel à témoins pour retrouver des victimes dans le cadre de l'enquête ouverte le concernant.
On reste dans la littérature, mais cette fois avec des infos beaucoup plus joyeuses, des nouvelles de l'Académie Goncourt.
Les nouveaux membres du jury du plus prestigieux prix littéraire du monde francophone sont la romancière Camille Lorenz, prix Femina pour son roman Dans ces bras-là, et l'essayiste Pascal Bruckner, prix Renaudot en 1997 pour Les voleurs de beauté. Alors Camille Lorenz a été élue au 7e couvert, celui qu'occupait Virginie Despentes, et Pascal Bruckner au 1er couvert, l'ancienne place de Bernard Pivot. L'Académie Goncourt est donc au complet présidée aujourd'hui par Didier Decoin, 10 membres, dont 3 femmes seulement. Première réunion avec ces nouveaux arrivants le 3 mars prochain.
Première réunion, ah non, ça c'était votre texte, mon texte c'est celui-ci, fini les traditionnelles affiches au Festival Off d'Avignon.
Et oui, vous savez, toutes ces affiches qui marquent véritablement toutes les manifestations théâtrales qui ont lieu l'été au festival, elles sont présentes dans toutes les rues
ah oui,
de la ville.
Inflation, il y en a tellement qu'on ne reconnaît
exactement.
Plus rien presque.
Exactement, mais plus cette année. C'est une annonce du président du festival qui a déclaré « On n'a pas le choix, on ne va pas regarder la planète se dégrader, nous sommes le plus grand festival de France et un des plus grands au monde. » Alors la raison, une mesure éco-responsable, le off du festival veut aussi limiter le tractage. Le festival qui aura lieu cette année du 3 au 26 juillet recense quand même 1500 spectacles qui se jouent dans 200 théâtres de la ville.
Et puis on va passer à la musique avec le retour de Janet Jackson.
Ça rappelle des souvenirs cette chanson.
J'adore le son de la percussion.
Alors, elle n'avait pas sorti de disque depuis 2015. Eh bien, elle en sortira un nouveau cette année, intitulé Black Diamond. La chanteuse a également annoncé une tournée mondiale, le Black Diamond World Tour. Elle parle de nouvelles chansons et de performances spéciales. Elle sera sur scène aux États-Unis du 24 juin au 23 août. Les dates européennes vont être annoncées prochainement.
Et on termine par une info qui risque de vous surprendre. Un Picasso à 100 euros, c'est pas une arnaque et c'est possible.
Et en plus, c'est pour la bonne cause. Une opération caritative lancée par l'ONG Care qui va permettre d'offrir l'accès à l'eau propre à 200 000 personnes en Afrique. Alors je vous explique le principe. Vous achetez en ligne un billet de loterie à 100 euros et vous avez la possibilité de gagner un Picasso, un vrai, d'une valeur d'1 million d'euros. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur unpicasso100euros.com. Le tirage au sort aura lieu le 30 mars à 18h chez Christie's à Paris.
1 et 100, c'est écrire en chiffres.
En chiffres, exactement.
Et puis 100, 100 euros au pluriel.com. Et soit on a un Picasso pour 1 million, qu'on aura payé que 100 euros, et soit on a fait une bonne action, donc ouais, je vous le conseille.
Exactement.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et il est temps d'accueillir, Philippe, vos invités culture, François Berléand et François-Xavier Demaison.
Bonjour François Berléand.
Bonjour.
Bonjour François-Xavier Demaison.
Bonjour.
Vous serez bientôt ensemble sur scène avec une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. C'est eux qui avaient fait le prénom, ça s'appelle Par le bout du nez. C'est une adaptation, c'est au Théâtre Antoine à partir du 25 février. Adaptation d'une pièce qui a fait un carton en Espagne, adaptée et non traduite parce que c'est très français. Racontez-nous l'enjeu. Tout d'abord, votre personnage, François-Xavier Demaison, qui est-il ?
C'est le président de la République, fraîchement élu, et qui se retrouve dans son bureau au milieu des cartons à l'Élysée, et qui a un souci, c'est qu'il ne peut pas prononcer son discours d'investiture. Il est pris de démangeaisons terribles à chaque fois qu'il le démarre.
Ouais.
Donc on a un souci historique, un souci énorme, disproportionné. C'est pour ça qu'il doit faire appel au meilleur psy de sa génération, qui n'est autre que
François Berléand, ici présent, son personnage. Voilà. Et donc, vous allez essayer de régler ce problème de démangeaison. Oui, oui. C'est le nez qui gratte.
C'est le nez qui gratte.
D'où le titre de la pièce.
Oui, oui, par le bout du nez. Ouais. Qui, en général, on mène quelqu'un par le bout du nez, donc qui mène l'autre, puisque c'est quand même le président de la République, qui le mène tous. Et là, en l'occurrence, on se partage la puissance du bout du nez. Voilà.
Alors, il faut expliquer que c'est le nez qui vous gratte, et du coup, vous faites des grimaces pour vous en départir. Parce que sinon, on pourrait dire, le gars n'a qu'à tenir, il résiste.
Non, il ne peut pas. Vraiment, c'est le discours d'un roi, quoi. C'est-à-dire que, voilà, vous souvenez ce film.
Bien sûr, il doit faire un discours alors qu'il est bègue, c'est ça ?
Il est bègue, exactement. Et c'est tout le rapport entre le coach, le psy et le roi. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il y a ce type qui est très puissant, qui vient d'hériter de tout le pouvoir et qui se retrouve comme ça, soumis et dans les mains de ce psy, je dirais, très malin qui va tout faire pour inverser ce rapport de force.
Ça démarre le 25 février, j'ai pas vu la pièce évidemment, je l'ai lu en entier, c'est une pièce espagnole, ça vient de El Electo, donc l'élu j'imagine, de Ramón Madaula, mais on reconnaît à travers le personnage du président un condensé, moi voilà ce que j'ai vu, de Sarkozy, de Hollande, de Macron, c'est comme ça dans le texte initial, ou est-ce que, comme s'il y avait des archétypes présidentiaux, ou est-ce que ce sont Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière qui ont beaucoup adapté le texte?
Alors, je pense que c'est une vraie adaptation, parce que le système politique en Espagne n'est pas le même. Ouais. L'auteur est un catalan, donc c'est assez régionaliste.
Il parle plutôt de la Generalitat,
c'est ça. Donc, sur des premiers ministres, quoi. C'est jamais sur des...
Non, mais là, par exemple, on reconnaît François Bayrou. Il dit un centriste qui pèse 5% et qui m'emmerde parce qu'il veut 30% des ministres. On croit le reconnaître, non? C'est pas forcément un Espagnol aussi.
Oui,
ou partout, il y a des centristes qui...
Partout, il y a ça. Dès qu'on commence à vouloir gouverner... voilà, on est bien obligé d'être avec l'aile gauche de son parti, l'aile droite, etc. Lui, en plus, n'est ni de gauche ni de droite.
Ouais.
Donc, effectivement, on peut se dire que c'est plutôt macroniste.
Et au bout d'un moment, alors, vous poussez le président fraîchement élu à aller raconter son enfance, parce que tout part de là. Après, c'est front inversé, parce que parfois, vous mettez à raconter votre enfance.
Voilà, absolument.
Enfin, pas tout à fait, est-ce que vous foutez de sa gueule quand même?
Oui, je me fous de sa gueule, mais en psychanalyse, le plus important, c'est évidemment de remonter dans l'enfance, et c'est là où, en général, où arrivent les problèmes. Quoi. Ouais. Sont partis les problèmes.
Plutôt. Oh, il y a une blague. Pourquoi les psychanalyses sont plus rapides chez les hommes que chez les femmes?
Parce que, alors évidemment, on a coupé ça. Parce que chez les hommes, parce qu'il s'agit de remonter dans l'enfance, et chez les hommes, on y est déjà.
Voilà, on est tous des grands enfants. Enfin,
oui, c'est vrai.
Nous, les mecs.
Mais il a quelque chose de grand. Enfin, il est touchant d'ailleurs, ce président.
Ah.
C'est très très drôle parce que au bout d'un moment, effectivement, il y a une espèce de dépendance comme ça, presque affective.
Au vote.
Ouais, qu'il a vis-à-vis.
Alors, justement, dingue, ça allait être ma question suivante, parce qu'en lisant la pièce, on voit que ce président veut être aimé, il veut pas seulement prendre les bonnes décisions, il veut être aimé, et je me suis dit, est-ce qu'ils se disent, ça se mesure à ça, la réussite d'un président? Est-ce que c'est la même chose pour un comédien?
Ah bah certainement, oui.
Est-ce que vous avez plus envie d'être aimé ou de faire des entrées? Vous allez me dire que c'est la même chose, ou est-ce que vous préférez être aimé que dire
beaucoup.
Tiens, j'ai bien joué ce truc-là.
Ben, on doute beaucoup. De toute façon, on se fait des parano aussi. Il suffit que votre dernier film fasse moins d'entrées. On vous dit que les gens ne m'aiment plus, etc. Donc,
Berléand, pareil.
Non, parce que moi, je viens du subventionné. Donc, pour moi, c'est si le metteur en scène est content, je suis content.
D'accord.
Après que le public soit au rendez-vous ou pas. Bah évidemment, c'est important que le public soit là.
Ouais.
On fait ça pour le public. Mais j'ai cette espèce de réflexe du subventionné qui fait qu'il faut faire plaisir au metteur en scène.
Ouais. C'est pareil dans la radio et dans la télé. Il y a des gens qui font de la radio pour les auditeurs et d'autres qui font de la radio pour le patron des programmes.
Ben, écoutez, voilà, il faut tout pour faire un monde.
Et puisque vous parlez du subventionné, il y a quand même des blagues françaises. Le psy étudie les démangeaisons sous langue médicale. Ça s'appelle notamment les TNP. Trouble de la personnalité narcissique. Mais le TNP, c'est le Théâtre National Populaire de Jean Villard. Il l'a fait exprès.
Absolument.
C'était
pour se marrer. Du coup, c'est encore une chose que nous avons
coupé.
Parce que justement, parce que j'ai dit, mais si on dit TNP, on va penser théâtre.
Ouais.
Or, nous sommes au théâtre, c'est pas la peine. Donc je dis trouble de la personnalité narcissique,
ouais.
Qui fait TPN d'ailleurs.
D'accord.
En fin de compte, et pas TNP.
Mais en gros, chaque fois qu'il y a un truc qui me fait marrer, ça a été coupé. Voilà, j'ai bien compris l'ambiance.
Non, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous savez quoi, Hélène Manarino se prépare.
Ah.
Ouais, et elle sera pas coupée.
Ah ouais, dans la pièce par le bout du nez. François Berléand et François-Xavier de Maison, vous jouez respectivement un psy et un président. Alors sur Europe 1, pas la peine de jouer, vous serez votre propre rôle. C'est à votre tour de vous allonger et d'écouter notre psy à nous, Hélène Manarino, qui vous a cerné dans son portrait inattendu. Portrait croisé, du coup, ce matin. Alors restez à l'écoute sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le portrait inattendu d'Hélène Manarino, c'est tout de suite Philippe Vandel.
Et c'est peut-être le vrai premier portrait croisé d'Hélène Manarino. Vous la connaissez ?
Oui, ouais, j'aime beaucoup.
Vous la connaissez, François Berléand ?
Mais non, mais je la connais maintenant.
Oui, maintenant vous la connaissez, mais elle, surtout, elle vous connaît.
Bonjour François-Xavier de Maison, bonjour François Berléand. Alors messieurs, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. 21 ans vous séparent et pourtant vous êtes inséparables pendant quelques mois, similaires sur quelques points. Vous êtes un peu nos Roger Moore et Tony Curtis du théâtre et du cinéma français. Alors Fixou, mon Berluche ou mon Berlot, deux destins presque faits pour se rencontrer. François Berléand, ado, lorsque vous enchaîniez vos bêtises au coussin péteur et bombe à eau, vous ne vous doutiez pas que quelque part, en région parisienne, un jeune homme nommé François-Xavier de Maison regardait en boucle le film Rocky et l'imitait dans les escaliers. François Berléand, à cette époque, vous identifiez déjà à votre groupe préféré. Ces quatre garçons pleins d'avenir, François-Xavier de Maison, vous étiez en train de rêver sur ça.
Je construis des marionnettes.
Ouais. Il y a du dossier.
Ouais.
Du dossier.
C'est vrai.
Oui.
L'envie de cinéma, poussée par votre meilleur ami, votre grand-père Guy, qui répertoriait d'ailleurs tous les articles vous concernant
c'est
en plusieurs
vrai.
Tomes.
Ah, oui.
Alors, il n'a pas été question de marionnettes quand vous avez réalisé votre premier film, François-Xavier. C'était à l'âge de 10 ans. Ça s'appelait Un après-midi fleuri. Les acteurs.
Vous n'y attendez pas à celle-là.
Non.
Les acteurs, vos sœurs et vos cousins, un film retrouvé depuis peu, François Berléand, vous tourniez déjà dans votre cinquième film. Mais surtout, François-Xavier, vous organisiez des concours de gros mots avec vos sœurs. Bon, un soir, votre père est rentré lorsque votre sœur prononçait putain. Elle ne vous a jamais dénoncé. Et pour vous faire pardonner, vous faisiez ses illustrations dans son cahier de poésie.
Eh oui,
quel gentleman.
Putain.
Un concours de gros mots auquel François Berléand aurait pu participer, puisque François, vous êtes un pro de l'insulte au volant.
Mais c'est vrai.
Attention, fenêtre fermée.
Non. Fenêtre fermée.
J'ai entendu le dire.
On sait jamais.
Ah, sinon, les gars.
Et puis, messieurs, il y a votre côté bon vivant. François-Xavier de Maison, dès la classe de 5e, en voyage scolaire à Rome, vous avez tous bu dans le train. Votre père était ravi de venir vous chercher à 7h du matin, gare de Lyon.
François, vous y êtes bourré ?
En 5e.
Oui,
hein.
Ouais. À 12 ans, c'est vrai que
c'est rude.
Non, mais bourré à 12 ans, à 7h du mat, c'est juste pas possible.
François Berléand, vous, le coude se lève surtout au Cap Ferré en mangeant des huîtres. Un jour, vous n'avez pas vu l'heure, la marée montée et vous n'avez pas pu repartir, enfin presque. Alors, côté mer, c'est compliqué aussi pour vous, François-Xavier de Maison, lorsqu'à l'âge de 20 ans, vous partez pour pêcher des oursins pour le dîner. Impossible de remonter l'ancre. Vous avez dû la couper et repartir à la nuit tombée sans oursins comestibles,
oui.
Évidemment. Alors, aujourd'hui, vous mangez des tapas, vous buvez du bon vin. François Berléand, vous, dès que vous rentrez à votre domicile, vous ne dites bonjour à personne. Vous allez dans un coin de la cuisine pour vous couper une rondelle de saucisson.
Oui,
c'est vrai.
Et personne n'a le droit d'y toucher.
Non.
Oui.
Une, jamais deux. Une.
Des fois deux.
Ah, des fois deux.
Quand j'ai très faim. Oui.
Ouais. Comme vous, il ne faut pas y toucher, comme vos affaires d'ailleurs. Vous adorez votre bordel. Alors, votre autre régime alimentaire, les gélules aux huiles essentielles. Vous êtes incollable sur le sujet.
Oui.
Ouais.
Ah bon
ouais. Ah oui, vous avez plein de gélules, des phytoses.
Oui, j'ai plein de gélules, mais pas toujours de l'huile essentielle.
Ah bon, et quoi d'autre
vous
prenez quoi
le reste.
Bah, des gélules pour la prostate, pour tous les trucs de vieux. Quoi.
Ouais, super, ouais. Super ambiance, on a lancé un bon sujet.
Pardon, je dévoile tout. Hein, ouais. Alors, côté sport, François Berléand, vous adorez dire aux gens, hier j'avais un match de rugby, tout le monde pense que vous en pratiquez, mais non, vous avez juste regardé un match de rugby à la télévision. Et ce quiproquo vous fait beaucoup rire. François-Xavier de Maison, plus jeune, vous pratiquez l'entraînement de Roland Garros,
non.
Mais sans raquette et sans balle, juste une imitation.
Ah oui. C'était du air tennis.
Ouais. Du air tennis. Là, comme du air rugby.
On est filmé, je vous signale.
Ah, j'ai un style de dingue, je peux vous faire tous les services Becker, tout ça. Alors, j'ai un très très beau style. Peu d'efficacité, mais très beau style.
Mais votre véritable sport à tous les deux, c'est la danse. Alors François Berléand, vous aimez danser avec vos filles quotidiennement. Vous avez aussi la danse de l'index. Ouais, ou de la danse orientale, ouais. Voilà, on est tous en danse de l'index, voilà. Ou même parfois vous vous mettez à quatre pattes avec vos enfants pour faire des courses, vous partez du mur et puis vous allez tout droit.
C'est vrai,
voilà.
Absolument.
Ils ont quel âge vos enfants ?
Bah 40 ans maintenant.
Mais c'est pas vrai.
François-Xavier de Maison, on est plus technique, vous adorez danser et vous venez d'apprendre avec votre épouse la chorégraphie d'un célèbre film. Ah, pas Dirty Dancing, pardon, qu'on avait le son.
Ouais.
Alors, avec le porté, pendant que François-Xavier, vous essayez votre nouveau karaoké des années 90, tout juste installé dans votre maison dans le sud, où vous chantez ça.
Ça, c'est en fin de soirée, généralement. Oui, il y a le Johnny qui remonte à la surface.
Et vous êtes bon là-dessus ?
4h30, j'ai l'impression que je suis bon.
Mais vous le mimez ou vous poussez ?
Ah, je
vous, vous envoyez la voix.
Mais ce qui est terrible, c'est que le karaoké, vous remarquerez que quand quelqu'un vous filme, vous avez l'impression d'être génial. Le lendemain, vous regardez la vidéo, c'est pathétique.
Ah, c'est tu t'es vu quand t'as vu.
C'est ça, il y a un peu ça. Y a un peu ça.
François Berléand, vous avez fait du karaoké. Vous avez surtout appris une chanson il y a quelques années. Vous essayez de la chanter, si.
Non, non, j'arrive pas.
Non, vous n'arrivez pas, mais vous avez essayé.
Oui, j'ai essayé, mais j'arrive pas.
Votre passion aujourd'hui.
Tellement magnifique. Pardon.
Votre passion aujourd'hui, François Berléand, c'est parcourir Shazam et Deezer, votre artiste du moment, Clara Luciani.
Absolument.
Mais il y a aussi cette chanson. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas trop les paroles. Sugar.
Oui, c'est vrai.
Alors, demandez à François-Xavier, pro des accents, des langues étrangères, notamment l'espagnol, puisque vous avez étudié en Espagne. Alors, tous deux attachés aux objets, collection des figurines Tintin pour François Berléand. Attention, quand une figurine se casse, vous l'emmenez à la clinique des figurines, ça existe.
Oh, mais comment vous savez ça? C'est incroyable.
C'est
des dossiers inouïs, parce que ça, personne ne le sait.
Ouais.
C'est incroyable, c'est mon fétiche à Rumbaya.
Ouais.
Fétiche de Tintin, l'oreille cassée.
Ouais, je vois très très bien.
Comme ça. Qui s'est,
il s'est cassé, mais pas à l'oreille.
Non, non, malheureusement pas l'oreille. Et donc, quelqu'un l'a emmené
à la clinique.
Avec la main, à la clinique des.
Et alors, ils l'ont sauvé ?
Mais complètement, ça se voit même pas qu'il est.
Puis vous me répondez comme s'il était vivant.
C'est ça que j'adore. C'est des objets.
Non, mais c'est énorme.
François-Xavier de Maison, vous, votre objet fétiche, c'est un cheval de manège du début du siècle, acheté aux enchères pour une association.
Exactement.
Alors, messieurs, tous les deux attachés à la transmission, la valeur de la famille, bon vivant, bon camarade, bosseur, père de famille, mari idéal, on ne vous imagine J'imagine presque plus l'un sans l'autre. Alors, ne vous séparez jamais amicalement vôtre, monsieur.
Vous êtes content? Il me dit non, Berléand. Sur quoi vous dites non?
Comme père idéal, je suis vraiment pas.
Ah, d'accord.
Franchement,
je jouais à quatre pattes avec des enfants de 40 ans. Franchement, j'avais jamais entendu.
Non, mais j'ai des jumelles de 11 ans. Hein. C'est peut-être avec elles aussi que je.
J'ai
fait avec les grands, mais quand ils étaient petits.
Voilà.
Quand ils étaient petits.
On a très bien compris. Tout le monde a compris.
Vous voyez, il y a quelque chose pour le saucisson. C'est quand même que. L'argent de poche quand j'étais petit, normalement c'était pour acheter les carambars, les malabars, etc., les mistral. Et ben moi, non, j'achetais du saucisson. Et donc, avec mes 2 ou 3 francs, j'achetais un saucisson que je mangeais, mais moi tout seul, mais même pas avec un couteau, avec les dents.
Comme ça.
Et c'est dans mon cartable.
Et ça, c'est votre Madeleine de Proust quand vous rentrez chez vous, c'est ça ?
Le saucisson.
Le saucisson.
Et vous avez 8 ans, sans dire bonjour.
Ah, absolument.
Hein ?
Ah ouais, absolument.
On vous dit pas au revoir parce que vous restez là.
Bah oui, je reste là.
François Berléand et François-Xavier de Maison sont les invités culture du jour. Ils restent avec nous jusqu'à 11h. Et donc pour la suite de Culture Média, avec dans un instant l'arrivée de Thierry Geffrotin, qui viendra nous présenter la biographie illustrée d'Antonio Vivaldi. Et Margot Barallon, elle, s'attaque à la 3e saison de Bar en Noir. Alors comme nos invités, 2 personnalités opposées, mais une association très efficace.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Pour la suite de Culture Média, Philippe, Margot Barallon est là ce matin pour nous parler d'une série française. Mais il y a aussi Thierry Geffrotin autour de la table. Et puis vos invités ce mercredi, François Berléand et François-Xavier de Maison, qui vont bientôt jouer dans la pièce Par le bout du nez.
Oui, c'est le titre de la pièce. Ironie de l'histoire, la pièce tourne autour d'une histoire de nez qui vous démange, François-Xavier de Maison. Et en préparant cet entretien, il vous a révélé que votre nez était un très gros complexe. Et je me suis dit, mais pourquoi il veut en parler pendant 1h30 en public de son nez? Ce type est fou.
Un gros complexe, non, mais c'est vrai que. C'est une donnée qui est quand même assez centrale, hein.
Ouais.
On va pas se mentir.
Non, mais si c'est un sujet complexe. Qui vous gêne.
Non, quand j'étais petit, effectivement, j'aurais préféré avoir un nez aquilin.
Ouais.
Vous voyez, une espèce de nez grec. Voilà, mais bon, c'est pas le cas.
Là, c'est bon, vous êtes déjà allé voir un psy, vous ?
Une fois.
Et alors ?
Je vais pas parler de mon nez.
Vous avez parlé de quoi ?
Des femmes en général, des miennes en particulier. Et puis.
Ah, c'est au pluriel.
Oui, non, mais de mon histoire, de ma vie affective.
Et alors ?
Eh ben, écoutez, ça n'a pas, j'ai pas donné de suite, même si je crois vraiment aux vertus de la parole, et vraiment, je crois vraiment qu'on peut dénouer des choses grâce à la psychanalyse.
J'en parle parce qu'évidemment, c'est l'histoire d'un président fraîchement élu, joué par François-Xavier de Maison, qui reçoit un psy qui lui règle un problème de démangeaison au nez, parce que le soir, il a un discours très, très, très important à faire. Berléand, je sais que votre enfance est complètement dingue, vous l'avez déjà raconté, vous aviez 11 ans, votre papa vous annonçait que vous étiez le fils de l'homme invisible, une boutade qui va vous mener presque au bord de la folie, parce que vous êtes retrouvé aller en classe complètement nu, en pensant que vous étiez réellement invisible, mais c'est là où je veux en venir, on vous a envoyé chez un psy, il vous a dit quoi le psy ?
Un pédopsychiatre.
Et alors ?
Bah, le psy m'a rien dit, c'est-à-dire que je suis resté pendant 10 minutes à attendre une question qui n'est pas venue, et puis à un moment donné, au bout de 10 minutes, il m'a dit « vous pouvez vous lever, oui, mettez votre main droite sur votre jambe gauche ». Donc j'ai pas compris pourquoi il me dit... Et là, les ennuis ont commencé pour moi, parce qu'il n'avait pas dit Jacques Eddy. Et donc, comme il n'a pas dit Jacques Eddy, j'ai pas... Parce que je pensais que c'était un jeu.
Non, mais vous foutez de moi, là.
Non, ma mère m'avait dit que c'était c'était... Il fallait passer des tests, donc pour moi, les tests, c'était des jeux. Et voilà. Donc il m'avait pas dit Jacques Eddy, donc j'ai pas mis la main droite sur la jambe gauche.
Et après, il a fait quoi de vous ?
Et après, il m'a dit, vous comprenez ce que je vous dis ? Et là, je me suis dit, ah, il veut jouer aussi au ni oui ni non, donc tout ce corset. Et donc, effectivement... Quand vous ne mettez pas votre main droite sur votre jambe gauche et que vous n'en répondez ni oui ni non, c'est un peu compliqué et vous faites une petite grimace quand vous dites oui.
Non mais c'est vrai qu'ensuite il vous a mis, envoyé dans une classe pour attarder manteaux.
C'est pas lui, hein. C'est ouais. Après, au fur et à mesure...
Est-ce qu'ils sont mis à plusieurs ?
Oui. Je suis allé au collège Sainte-Barbe pour en parler, parce que ça n'existe plus malheureusement, ouais. Ce collège n'existe plus. Et là-bas, il y avait un cours de méthode Ramin, que je ne conseille pas à qui que ce soit. Et là, vraiment, j'ai sombré, vraiment, littéralement. Voilà.
Heureux, vous avez retrouvé l'oxygène. Merci d'être avec nous ici.
Voilà. Non, mais
franchement, vous revenez de loin. Quand on connaît la vie de Berléand, on se dit ce type revient vraiment de loin. Lundi, on recevait à cette place Éric Benzekri. Vous savez sûrement qui c'est le co-créateur de Baron Noir. On le recevait dans Culture Média. Et ce matin, Margot Barallon, vous allez nous dire ce que vous avez pensé de la série. Moi, j'ai vu 3 épisodes. Vous avez tout vu.
Oui, j'ai tout vu. Et j'en ai pensé donc beaucoup, beaucoup de bien. C'est la troisième saison. Ouais. Elle est disponible depuis lundi sur Canal+. Et pour moi, c'est tout simplement la meilleure. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le baron noir, c'est Philippe Rigvart, ancien député maire de Dunkerque, incarné par Cadmerade, un socialiste qui passe son temps à élaborer des stratégies, à manœuvrer pour faire lire les uns, tomber les autres. À force de magouiller, il finit par être rattrapé par la justice. À la fin de la saison 2, il passe par la case prison. Début de saison 3, on le retrouve libre et bien décidé cette fois à finir président de la République.
Alors moi, j'ai pas tout vu, me dites pas s'il y arrive ou pas.
Bah non, évidemment, je ne vous révèle rien, si ce n'est que Philippe Rigvart va prendre une décision radicale.
C'est pas toi qui vas tuer le PS, c'est le PS qui te tuera.
Le PS, c'est toute ma vie. Je suis quoi, moi, si je suis plus socialiste ?
Le même. Philippe Rigvart.
Fini le PS, il rejoint Michel Vidal, le leader d'un parti très à gauche. Alors évidemment, toute ressemblance avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon n'est pas fortuite.
Alors tous les personnages sont calqués ou pas sur des figures politiques qui existent vraiment ?
Alors oui et non, on voit beaucoup de clins d'œil de référence, Mélenchon mais aussi Macron, Le Pen. Mais Baron Noir ne se contente jamais de copier la réalité. Très souvent, la série imagine plutôt l'étape d'après. C'est presque une dystopie. Par exemple, dans cette saison, il y a l'apparition d'un nouveau personnage, un youtubeur, qui va proposer tout simplement de supprimer les élections.
Les élus sont les pires d'entre nous parce qu'ils désirent le pouvoir. Et les élus sont aussi des menteurs parce qu'il faut mentir pour être élu et mentir encore pour rester élu.
Les élections, ce n'est pas la démocratie. La seule vraie démocratie,
c'est le tirage au sort. Le tirage au sort ne donne pas le pouvoir à ceux qui le veulent. Le tirage au sort rend le mensonge inutile.
Voilà, alors cette idée du tirage au sort, en fait, elle est inspirée directement des Gilets jaunes qui estiment que le système politique représente mal le peuple et les scénaristes ont en fait poussé le curseur un peu plus loin. Ils ont fait pareil avec la violence. On sait très bien que dans la vie, les politiques sont très détestées, mais dans Baron Noir, on imagine que cette haine engendre même jusqu'à de la violence physique.
Mais c'est assez sombre quand même de la politique, alors, comme vision,
c'est
même
vrai,
très.
C'est vrai, c'est très sombre, mais moi, ce que j'ai trouvé le plus réussi, c'est surtout que c'est une vision à hauteur d'homme de la politique. On n'est pas seulement sur les alliances, les trahisons. La série évite aussi le tous pourris. Évidemment, tous les personnages ont des défauts. Ils adorent le pouvoir, l'argent, ils sont un peu vils. Mais la série montre aussi à quel point ces politiques souffrent, à quel point c'est dur d'être détesté autant tout le temps. Ils n'en peuvent plus. Il y en a d'ailleurs certains qui jettent l'éponge, pardon. Et au fond, on sent qu'Éric Benzekri, le co-créateur de la série, il a du respect, il a même de l'admiration pour ces hommes et ces femmes qui ont quand même des idées, qui se battent pour elles. Baron Noir, moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est une déclaration d'amour à la politique et à celles et ceux qui la font.
Ça vous faisait sourire, François et François-Xavier. On est dans, on est dans votre pièce, non ?
Le thème de notre pièce, effectivement. Hein, c'est drôle de voir la chronique aujourd'hui sur Baron Noir, parce que c'est vrai que c'est, ben, ça fait partie, effectivement, des déclinaisons.
Il souffre. Je ne vais pas tout spoiler, oui, mais il souffre, le président. Il est malheureux.
Il souffre. Il ne faut pas spoiler, mais il souffre. Il est seul, il souffre. Il est, voilà. Mais toute ressemblance, là, pour le coup, est fortuite. Vraiment.
Et sinon, vous êtes fan de Baron Noir à la base ?
Oui, moi, j'aime beaucoup ce que font les deux auteurs, effectivement. Je trouve ça très, très intéressant. La fiction française, quand même, il y a quand même des choses merveilleuses aujourd'hui. Donc, voilà, on peut se réjouir.
Et vous savez que un des personnages que vous avez joué revient dans le champ politique. Vous avez joué Coluche quand il souhaitait se présenter ou non à la présidentielle. Oui. Et vous avez vu que l'Élysée craint énormément ça, une candidature comme ça d'un clown, que ce soit Hanouna, ou c'est pas une clown, mais Natacha Polony, ou quelqu'un comme ça, il craint une candidature à la Coluche.
Oui, en Italie, il y a Pepe Grillo.
Exactement, qui était un comique, qui a été élu.
Exactement. Oui, mais revoyez le film d'Antoine de Côte, voilà, qui est un très très bon film, qui parle vraiment de cette période-là et effectivement de la réaction du monde politique face à cette candidature un peu originale.
François Berléand, vous pourriez voter pour Cyril Hanouna ?
Pas tout de suite. peut-être que je...
L'élection, c'est 2022. Hein.
Oui,
vous avez le temps de réfléchir.
Oui, réfléchir.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Philippe Vandel, vous êtes entouré par François Berléand et François-Xavier Demaison, vos invités ce mercredi. Mais il y a aussi Margot Barallon et Thierry Geffrotin qui a un nouveau livre à nous présenter.
Vous en parlez musique et carnaval oblige. Thierry, vous nous emmenez ce matin à Venise.
Évidemment, le carnaval a commencé. Il se termine le 25 février. Alors, on n'est pas à Venise, on est dans le studio d'Europe 1. Mais allez, musique maestro. Un extrait de l'Olympiade. Je pense que personne autour de cette table ne connaît. Oui, bien joué.
Voilà.
Opéra composé par Antonio Vivaldi pour le carnaval de Venise de 1734.
Ouais, mais aujourd'hui, à Venise, comme dans les ascenseurs, on entend plutôt les quatre saisons.
Oui, c'est vrai. Les concerts passent partout, j'allais dire attrape-tout sans légion à Venise. Mais à l'époque de Vivaldi, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIIe siècle, le carnaval, c'était l'occasion d'aller écouter des opéras. Vraiment, c'était la grande fête. On adorait ça, les opéras. Et pour la petite histoire, Vivaldi qui a écrit, il disait 94 opéras, on en a une cinquantaine. Vivaldi était né le 4 mars 1678, c'est-à-dire en pleine époque du carnaval. Il y avait une espèce de destin préécrit. Voilà ce que vous apprendrez notamment en lisant un nouveau livre sur Vivaldi qui vient de paraître et qui a pour titre tout simplement Antonio Vivaldi, écrit alors par un très grand musicien, chef d'orchestre et violoniste Fabio Biondi et Adélaïde de Place.
Mais oui, parce que pour moi et pour tout le monde, Vivaldi c'est le violon.
Oui, bah vous avez raison, évidemment.
Ah, merci.
Oui, vous avez raison. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque de Vivaldi, le violon pour lequel il compose est une création assez récente. Alors le violon, il existe bien avant Vivaldi, mais c'est au tout début du XVIIe siècle que les luthiers, les fameux luthiers de Crémone, ont vraiment amélioré l'instrument techniquement au point d'aboutir à une perfection quasi définitive. Et d'ailleurs, Vivaldi n'est pas peu fier de se présenter, il n'y a pas une carte de visite, mais ça revient un peu au même, il se présentait comme musico di violino e professore veneto. Il était professeur à la Pietà. Alors la Pietà, c'était à la fois un orphelinat pour jeunes filles. C'est pour elle qu'il a écrit le fameux Gloria que toutes les chorales, même les chorales amateurs, ont chanté.
Gloria.
Exactement.
C'est
voilà.
Ça.
Gloria.
Ouais, oui. C'est un grand connaisseur. Je leur ai demandé avant l'émission, je dis on va parler de Vivaldi. Est-ce que et Demaison m'a dit j'adore et Berléand m'a dit je déteste.
Non, c'est pas vrai, il a rien dit. Donc c'est la Pietà, orphelinat pour les jeunes filles et conservatoire de musique.
Combien d'œuvres pour violon a écrit Vivaldi alors?
Oh là là, c'est considérable. Alors entre les sonates, c'est-à-dire les pièces pour violon et basse continue, c'est-à-dire violon et clavecin et violoncelle, les concertos, c'est-à-dire les compositions pour violon soliste avec un orchestre, on estime, c'est des estimations, hein, que Vivaldi a écrit plusieurs centaines d'œuvres.
Plusieurs centaines.
Ah oui, plusieurs centaines. Les concertos, je dirais 250. Sachant qu'il a aussi écrit des concertos pour trompette, pour flûte, pour violoncelle, pour hautbois, pour basson et même, ça j'adore moi, pour mandoline.
Ça C'est une star, c'est une star, le mot est faible, de la musique classique, Vivaldi, mais vous dites que ça n'a pas toujours été le cas,
non,
Thierry.
Non, alors ça a été le cas de son vivant, et puis quelques années avant sa mort, eh ben, il n'était plus à la mode. Hein. Ah oui. D'ailleurs, il a quitté l'Italie, il est allé mourir à Vienne, Vivaldi. Il n'était plus à la mode, et il a fallu attendre le premier quart du XXe siècle, vous entendez bien, on a l'impression que voilà, Vivaldi c'est comme Bach, comme Mozart. Non, 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 il était tombé dans l'oubli, et en fait, le prêtre Roux est ressorti du purgatoire. Je dirais qu'il a beaucoup été aidé par les musiciens, évidemment, mais aussi par le disque, par le 33 tours, vous voyez, à partir du milieu des années 50.
Nous, on avait les 4 saisons à la maison.
Voilà, il est revenu en pleine lumière. Et alors, entre la musique d'orchestre, les opéras, on en a quand même aujourd'hui une cinquantaine qu'on peut entendre ou enregistrer, la musique sacrée, le fameux Gloria, chanté par François-Xavier, on peut vraiment, je vous l'assure, on peut passer une vie entière à écouter du Vivaldi, et pas seulement les magnifiques et célèbres 4 saisons.
Le titre du livre, vous le redonnez, Thierry ?
Antonio Vivaldi par Fabio Biondi, Adélaïde de Place, chez Bleu Nuit Éditeur. Le livre coûte 20 euros. Je pense que c'est un livre très intéressant à lire, parce que voilà, quand on dit Vivaldi, on pense qu'on sait tout de lui. En fait, on ne sait rien.
François-Xavier de Maison, pourquoi il vous touche à ce point, Vivaldi ?
J'aime beaucoup cette musique, comme ça, ces voix de Castrat. J'aime Pergolèse, j'aime Vivaldi. Ah ouais. Voilà, c'est une époque que j'adore. Je trouve ça très, très... Ça me touche beaucoup, et j'ai un souvenir de... J'ai fait mon touriste, je dois avouer. J'ai été écouter Vivaldi, les 4 saisons, dans une église à Venise. Après, j'ai bu un Quintarelli sublime, qui ont été classico. Et je me suis dit que c'était une certaine façon d'être heureux, voilà. Je trouve que c'est... Voilà, je ne boude pas mon plaisir. Je fais un peu touriste en disant ça.
Mais c'est une musique qui rend heureux.
Oui,
c'est
voilà,
vrai.
Exactement, ouais. Ça rend heureux.
Ouais. Surtout avec un Chianti classico.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça.
Je ne savais pas comment le dire, mais là, j'ai bien compris le truc.
Ça allait bien ensemble.
Ouais, en restez avec nous.
Quintarelli, Vivaldi, ça va bien ensemble.
Voilà, Berléand est à l'eau minérale comme moi, donc...
Oui. Oh là là, bah, c'est un asset.
Dans un instant, ce sera déjà la dernière partie de Culture Média. Aujourd'hui, c'est François-Xavier de Maison et François Berléand qui restent avec nous jusqu'à 11h. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et Philippe Bondel, Culture Média se termine avec Thierry Geffrotin, Margot Barallon et vos invités du jour, François Berléand et François-Xavier de Maison, qui seront à partir du 25 février sur la scène du Théâtre Antoine pour la pièce Par le bout du nez.
François-Xavier de Maison, vous êtes le nouveau directeur du Théâtre de l'Œuvre.
Oui, depuis 4 ans et demi.
Pourquoi cette pièce n'est pas jouée chez vous ? Pourquoi c'est au Théâtre Antoine ? C'est question de principe, j'imagine.
Oui,
ou ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait comme ça.
Vous auriez dit non si on vous l'a proposé.
Non, non, j'aurais pas dit non, mais ça s'est fait comme ça. On a une très belle programmation. D'ailleurs, en ce moment, on a Mathieu Madénian, Marina Rollman, et à 19h, le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik. Donc on est très heureux de la programmation du Théâtre de l'Œuvre actuellement.
Vous avez déjà joué dans votre théâtre ?
J'ai fait une lecture avec un prix Nobel. J'ai fait une lecture sur Dario Fo.
Ouais.
Mais non, j'ai pas encore investi le théâtre en tant qu'artiste. Ouais.
Vous serez aussi dans Divorce Club ?
Oui, qui sort le 25 mars, film de Michael Youn.
Ouais. Avec Arnaud Ducret, Audrey Fleurot. C'est quoi ? On a la bande-annonce ?
Non.
Mais si.
Je me souviens de Ben, mon mari.
Ma femme m'a quitté pour son patron.
Bonjour.
Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés.
Oui.
Tout le monde l'a entendu se faire...
démonter.
Oui.
Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire.
T'as plus rien.
Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi.
Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste.
On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque.
Salut, toi.
Salut.
C'est le Divorce Club.
Réveille-toi, Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'abuses.
C'est un film de mec, non ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Pas du tout.
Parce que c'est une bande-annonce de mec. Hein. C'est...
Non, on peut croire.
Il y a de la
testostérone. Très, très joli film de femmes, personnages de femmes.
Ouais.
Audrey Fleurot, Caroline Anglade et Charlotte Gabris, Claudia Tagbourg. Enfin, les femmes sont très, très drôles dans ce film. Non, non, pas du tout.
Vous raconterez ça à votre psy. Berléand, vous êtes dans L'Esprit de Famille, mais j'ai une mauvaise nouvelle. On n'a pas la bande-annonce. Ça raconte quoi, L'Esprit de Famille ? C'est actuellement au cinéma.
Ouais, c'est une famille.
Ouais,
et puis il y a un esprit.
Ouais.
Voilà. Un esprit qui est là, c'est moi. Je meurs tout de suite dans le film. Et en fin de compte, je jante mon fils aîné.
D'accord.
Voilà. C'est très drôle.
Bah déjà, quand vous le racontez, c'est drôle. François-Xavier de Maison, j'ai pas compris. La saison 2 de la série Quadra, on va la voir sur M6 ou pas ?
Non, on
alors je vais vous
pas.
Dire. Parce que première, en janvier, annonce que c'est annulé. Le Figmag annonce que vous avez tourné. Ouais, et vous êtes le producteur exécutif, et ça va se faire aux États-Unis.
Oui, alors la Fox a racheté les droits de la série pour en faire un pilote, ouais, avec Andy McDowell et Kathleen Turner.
Voilà. Et prends ça dans ta gueule.
Voilà. Non, pour l'instant, pas de saison 2 en France.
Mais alors,
c'est la vie. Ouais. Je n'ai pas de. Je peux pas vous dire.
Non, je vais parler de la version de la Fox. Ça va être dirigé, si je suis bien informé, par Tom Capinos, qui est le créateur
de Californication. Tout à fait.
Qu'est-ce qui plaît aux Américains, qui plaît plus à M6? Qu'est-ce qu'ils ont aimé, les Américains?
Je pense qu'ils ont aimé le scénario, l'histoire de Mélissa Dreja et Vincent Juillet. La construction, ce mariage à rebours comme ça, hein, des rebondissements, je pense qu'ils aiment la qualité, ils aiment les séries de qualité.
Berléand, vous tournez moins qu'avant. Avant, on disait, Berléand, il est dans tous les films.
Ouais.
Et maintenant, vous avez arrêté.
Ouais.
C'est un choix?
Ouais. Aussi.
Pour arrêter qu'on aussi dise, il est dans tous les films, ou parce
oui,
que...
Mais, oui, oui. Mais parce que, attention, quand j'étais dans tous les films, j'avais peut-être un rôle principal ou un rôle important, et puis 7-8 où je faisais des apparitions amical.
Ouais.
Et puis jusqu'au jour où mon facteur m'a dit on te voit trop. Et c'est mon facteur qui a décidé de ma carrière.
Incroyable.
Ouais, mais c'est vrai en plus l'histoire.
Mais je vous crois absolument. Parfois on ne sait pas qui nous parle et qui nous touche. Le problème c'est déplacé parce que vous avez révélé vous-même que vous ne savez pas dire non à une pièce.
Absolument. Ni à un film d'ailleurs.
Ah bon,
donc maintenant je dis non, mais c'est-à-dire je passe par mon agent.
D'accord.
J'ai compris ça.
Mais les pièces, vous êtes bookées jusqu'à quand?
22-23.
2020. Et vous?
Ben moi, après cette pièce, il y aura mon nouveau spectacle, quatrième spectacle, voilà. Et donc, je vais peut-être créer au Théâtre de l'Œuvre, donc vous voyez.
Vous occupez toujours de l'association Le Rire Médecin, François Xavier?
Oui, toujours, Xavier. Magnifique association qui finance et forme des clowns dans les hôpitaux. Et j'en suis très fier, exactement.
Je voudrais qu'on...
Moi aussi, j'ai des associations. Oui, je suis parrain vraiment du Petit Prince.
Oui. Ah, mais si, ça.
Je suis parrain d'Ella et d'une nouvelle association qui est très importante, qui s'appelle les Défis de Panacée, et c'est pour le don de moelle osseuse.
Formidable.
Et en fin de compte, les dons de moelle osseuse, on pense que c'est l'os. Non, c'est une prise de sang.
Ouais.
75%. Et sinon, bon, évidemment, il faut faire des ponctions dans les. Là, c'est moins agréable. Et c'est jusqu'à 50 ans qu'on peut donner. Ça boit de là.
Voilà, je vais dire juste une dernière question pour clore le chapitre du nez, François-Xavier de Maison. C'est vrai que pour lutter contre le trac, vous mettez du baume du tigre sous le nez?
Oui.
Et là, vous avez le trac ou pas?
J'ai un petit rituel. Je mets un peu derrière les oreilles, un tout petit peu de baume du tigre. Ici, ça me dégage le nez, ça me fait du bien. C'est un petit rituel comme ça, voilà.
Et ça marche.
Vous êtes très au courant.
Et vous aviez aussi, parce que l'on va être sérieux 30 secondes, vous aviez un rectificatif
oui,
à faire.
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un Chianti Classico de Quintarelli que j'ai bu à Venise. Non, c'était un Valpolicella.
Et ouais.
Je tiens à m'excuser auprès des auditeurs.
Oui. On a reçu beaucoup d'appels. Merci beaucoup, François-Xavier de Maison. Merci beaucoup. François Berléand, je rappelle par le bout du nez la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, ceux qui avaient fait le prénom. C'est au Théâtre Antoine, ça va démarrer le 25 février. Évidemment, les locations sont déjà ouvertes. Merci à tous, merci Thierry, merci Margot, merci Justine. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Bruno Guillon pour Les Amours, l'émission qui présente, ce sera une spéciale Saint-Valentin pour les Victoires de la Musique également, et la comédienne Marie-Josée Croze pour la série Mirage qui démarre lundi sur France 2. À demain, bonne journée sur Europe.
Merci Philippe Mandel, le programme continue en sur Europe 1 avec l'arrivée d'Anne Roumanoff et de toute son équipe pour Ça fait du bien. Ils reçoivent aujourd'hui Bruno Salomon, Agathe Le Caron et Benjamin Muller.